La situation en Somalie, où les influences extérieures venues de diverses parties du monde sont aussi fréquentes que d'éternuer, que de respirer, que de tousser, comme tous les actes humains.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Non, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
Amaury Chardot.
Une page d'histoire mise en musique, Jukebox qui a pris ses quartiers d'été vous propose chaque week-end à 19h une série de rediffusions. Bonsoir à tous. Voyage ce soir dans la Corne de l'Afrique, en Somalie qui n'avait pas toujours été une terre de guerre et de désillusion. À la manière de sa voisine éthiopienne, la Somalie et Mogadiscio connaissent les décennies 70 et 80 un petit âge d'or musical via l'explosion d'une scène funk, pop, matinée d'influences indiennes. C'est l'époque de la dictature socialiste de Siad Barré qui modernise le pays tout en muselant les oppositions et où les luttes claniques finiront par faire basculer le pays dans le chaos et la guerre civile. Dans cette histoire, on croisera des cassettes audio au son rouillé, des chants de femmes doux comme des dattes, des boîtes de nuit avec vue sur mer et des exils douloureux. Ce soir, 1970-1980, ce temps où Mogadiscio chantait. Le matin même, le dernier client avait quitté l'hôtel. Un Américain, la cinquantaine bedonnante, sans doute membre d'on ne sait quel service gouvernemental et secret, et qui, l'air exténué, avait débouché de l'ascenseur. Les porteurs de l'établissement, fébriles, s'étaient précipités pour charrier sa petite valise jusqu'à son taxi, dont le moteur avait, quelques secondes plus tard, disparu au coin de la rue. Les portes battantes de l'hôtel Al-Uruba s'étaient refermées et depuis le silence s'était abattu sur les lieux. Ces immenses couloirs, ces centaines de chambres comme des cellules gardiennes de leurs secrets face à l'océan Indien. Plus aucun client ne viendrait à Al-Uruba, ce joyau moderniste avec ses ornements orientaux et ses murs en plâtre blanc. Rapidement, l'essentiel du personnel avait été licencié. Une décennie plus tard, seuls les miliciens islamistes déboulaient encore parfois faisant le tour du bâtiment et repartaient, l'air satisfait de la désertion de cet ancien îlot de perdition. Ce second millénaire, Al-Uruba est devenu un vaisseau fantôme, sa façade éventrée de trous d'obus et de mortiers. Ce n'est plus qu'une funeste carcasse exposée au vent sec, les pierres s'effritent. Tout respire ici, l'abandon, la résignation, 30 ans de solitude. Rien pour rappeler le faste d'antan, ces voyageurs descendus d'avions du monde entier se croisant dans les vastes espaces de réception, et puis les rythmes endiablés qui y résonnaient jadis une fois la nuit tombée. Al-Uruba n'est plus qu'un funeste balcon sur la mer où croisent, comme depuis toujours, de féroces requins attaquant en eau peu profonde, mais aussi une incroyable diversité de poissons et de crustacés.
Nahliyo.
Ce titre qu'on peut traduire par « Vous êtes perdu, levez-vous », composé et interprété par un groupe de Mogadiscio dans les années 1980. Ce groupe, les Lions du divertissement de Banadir, une troupe de théâtre fondée quelques années plus tôt, auteur d'une douzaine de pièces, comme celle-ci, racontant l'histoire d'amour, unissant une étoile féminine, la Somalie, à un astre masculin, la liberté, tandis qu'un troisième protagoniste, le dictateur, remue ciel et terre pour empêcher leur idylle. Depuis l'arrivée en 1331 de l'explorateur marocain Ibn Battuta sur la côte est somalienne et sa terre rouge de la Territz, Mogadiscio était devenu l'escale privilégiée des marins arabes sur la route du commerce de la cannelle ou de l'encens. Au XIIIe siècle, le port gagne en influence, la ville s'arabise, s'islamise, les Portugais échouent à s'y implanter. La Somalie passe finalement sous protectorat italien en 1889, devenant dans la foulée une colonie à proprement parler. Quant à sa partie nord-ouest, le Somaliland, il a été colonisé dans le même temps par les Britanniques. Ces deux verrous coloniaux sautent coup sur coup l'été 1960 et les deux entités nouvellement indépendantes décident de s'unir pour donner naissance à la République de Somalie, capitale Mogadiscio. Adopté depuis 1954, le drapeau national figure cinq étoiles rouges, désignant les cinq régions historiquement peuplées par les Somalis. L'ancienne Somalia italienne, l'ancienne Somaliland britannique et trois autres zones recoupant la future Djibouti ainsi que deux régions frontalières avec le Kenya et l'Éthiopie. Les débuts sont difficiles. Les luttes claniques de pouvoir paralysent l'action publique, chaque région de cet immense pays cherchant à tirer la couverture à soi. L'immobilisme social est fort. Le pouvoir confié au gouvernement au lendemain de l'indépendance apparaît aux yeux de beaucoup comme de plus en plus illégitime, rongé par la corruption. En 1969, 9 ans après l'indépendance, les choses basculent en quelques jours. Le 15 octobre, le président en exercice est assassiné lors d'un déplacement en zone rurale par l'un de ses gardes du corps.
Monsieur Schermark a donc été tué dans le nord du pays, à Las Hamas, où il effectuait une tournée d'inspection après une période de sécheresse. Son agresseur a été arrêté immédiatement, c'est un policier. Il a tiré plusieurs coups de feu sur le président somalien. Le président Ali Schermark avait 52 ans. Avant d'occuper les fonctions de président de la République, il avait dirigé le gouvernement de Mogadiscio pendant 4 ans.
Ali Schermak est enterré le 20 octobre 69 et le lendemain, un groupe de militaires conduit un putsch.
Coup d'état en République de Somalie, une junte composée de représentants de l'armée et de la police se sont emparés du pouvoir la nuit dernière.
L'instigateur principal de ce changement de régime serait le général Mohamed Ziyad Barré, commandant en chef des forces armées somaliennes. Il semble que le coup d'état se soit déroulé sans effusion de sang.
Un certain nombre de mesures ont aussitôt été prises, le couvre-feu est instauré, les rassemblements de plus de 3 personnes sont interdits et l'armée peut perquisitionner au domicile des particuliers.
Ce 21 octobre 1969, la nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre à travers les villes, vidant en quelques minutes les écoles, précipitant dans la rue des foules en liesse. Derrière un militaire, Ziyad Barré, la junte nouvellement en place va enfin libérer la Somalie de ses inégalités et de sa corruption généralisée. Ziyad Barré, 50 ans, une petite moustache à la Hitler. Il est issu d'un clan de pasteurs, enfants orphelins et bergers, qui s'étaient par la suite engagés dans l'armée, avaient été formés par les Italiens et avaient gagné en influence jusqu'à devenir, lors de l'indépendance, le commandant des troupes gouvernementales. Porté au sommet, Ziyad Barré adopte une ligne marxiste, celle du socialisme scientifique. Les partis politiques sont interdits, l'Assemblée nationale est dissoute et la Constitution suspendue. Un conseil suprême, le CRS, déclare également vouloir mettre fin au tribalisme. Siad Barré promulgue surtout de grandes lois novatrices. L'égalité des citoyens devant la loi, l'égalité des sexes, une révolution dans une société si traditionnelle, ou encore la gratuité des soins et de l'éducation. Des mesures qui poussent des centaines de milliers de nomades vers les villes. Culturellement, le nouveau régime souhaite promouvoir les arts. Les théâtres fleurissent, perpétuent une culture orale, se faisant l'écho des nouveaux modes de vie. Musicalement, de nouveaux orchestres sont créés au sein de l'armée, de la gendarmerie, de l'administration pénitentiaire. Plusieurs ministères engendrent également les leurs, comme celui qu'on entend en ce moment, le Wahaberi Band, autrement dit les Joueurs de l'Aube, dépendant du ministère de l'Information, et qui, en 1969, produit à la radio ce titre qu'on peut traduire par « Qu'est-ce qu'Octobre ? Qu'est-ce que c'est ?» C'est le nôtre, déroulant toutes les grandes révolutions ayant eu lieu par le passé au cours de ce même mois d'octobre. Cette chanson, qui passait régulièrement sur les ondes de Radio Mogadiscio, les écoliers la connaissaient par cœur et des fanfares militaires la jouaient souvent dans les rues. Le Wahaberi Band pour ce Oktobar Wahati Wahatayadi, enregistré à Mogadiscio en 1969 et ici dans une version instrumentale. Le pouvoir central qui encourage donc rapidement la création des premiers groupes de musique moderne, lesquels chanteront en langue somalie, instaurée par le régime de Siad Barré comme la seule langue officielle en remplacement de l'italien. Le somali, qui s'écrira à partir de 1972 en alphabet latin. Cette année-là d'ailleurs, toutes les écoles sont fermées et les professeurs et autres fonctionnaires sont formés à ce changement. Quant à l'industrie musicale, elle est entièrement placée entre les mains de l'État. Il n'existe pas de maison de disques en Somalie, qu'elle soit étrangère ou nationale. La seule musique enregistrée officiellement l'est au Théâtre National de Mogadiscio, ouvert en 1967, ou sur les ondes des radios nationales, Radio Somalie, mais surtout Radio Mogadiscio, qui sert de trait d'union entre la capitale et les provinces les plus éloignées du pays. Entre des messages éducatifs vantant les progrès de l'agriculture ou de la pêche, des conseils d'hygiène ou des sermons moraux, Radio Mogadiscio diffuse de la musique, 15 heures par jour, que de plus en plus d'auditeurs se mettent à enregistrer sur des cassettes audio, ces vieilles et grimaçantes cassettes grâce à qui cette musique nous parviendrait plus tard. En échange de pouvoir se produire sur les ondes nationales, ces musiciens subventionnés par le pouvoir doivent s'acquitter de certaines obligations. Être à disposition des réceptions officielles, composer des chansons sympas envers le pouvoir et les progrès de l'éducation, mais aussi dispenser quelques cours de musique dans les écoles. Parmi les groupes créés dans la foulée des différents ensembles Wahaberi et que rejoint bientôt le chanteur Hassan Adan Samatar, qu'on entend à l'instant, le groupe Iftin, le soleil couchant en Somalie, fondé vers 1975 sous les auspices du ministère de la Culture pour promouvoir la nouvelle modernité. Iftin s'impose rapidement comme un phare, ses membres venus des différentes tribus du pays, arborant chemises cintrées et synthétiques et coupes afro pour le leader Mohamed Chimali, déroulant notamment de bouleversantes chansons comme celle-ci qu'on peut traduire par « Cet amour ne connaît pas de frontières » enregistrée à Mogadiscio dans les années 70. وحالك حسابي حبال ما قشوه والعنت جلال وحالك حسابي حبال ما قشوه والعنت جلال Thank you. Cet amour ne connaît pas de frontières, enregistré dans les années 70 à Mogadiscio par le groupe Iftin. Culturellement, jusqu'alors, à Mogadiscio, on ne connaissait surtout que les soirées de récitation de poésie traditionnelle, souvent dans des maisons privées. Puis, à partir du milieu des années 60, ce pays de tradition orale avait connu un développement important des compagnies de théâtre, proposant de longues pièces poétiques où les musiques composées pour l'occasion étaient aussi prisées que l'intrigue. À cette époque, Hargeisa, l'ancienne cité des arts située au nord-ouest du pays et qui depuis longtemps captait les ondes musicales soudanaises ou arabes, perd peu à peu de son influence au détriment de Mogadiscio. Mogadiscio, où se réinventent les musiques traditionnelles et où affluent de plus en plus d'habitants venus des campagnes. Mogadiscio, qu'on désigne ce début des années 70 comme la perle de l'océan Indien. Son architecture multiculturelle, ses maisons de coraux blanchies à la chaux côtoyant les anciennes bâtisses coloniales, européennes ou arabes et leurs arches mauresques, ses mosquées, ses minarets, mais aussi ses grands cafés, ses restaurants, ses cinémas dispersés parmi les larges avenues plantées de palmiers, encombrées de fiat ou de rickshaws indiens. L'Inde et les chansons de Bollywood qui deviennent alors très populaires en Somalie, où les musiciens traditionnels utilisent pareillement et depuis longtemps la gamme pentatonique. Mogadiscio, où la demande touristique a fait se construire depuis quelques années une poignée d'hôtels de luxe. S'y croisent diplomates, hommes d'affaires ou bourgeois locaux. À la nuit tombée, ces hôtels se changent en boîtes de nuit. Ces hôtels s'appellent le Jouba, le Chabel, mais surtout le Jadira ou l'hôtel Al-Uruba, surplombant la mer. Là, les jeudis soirs, se produisent les musiciens des groupes officiels, autorisés à venir cachetonner au sein de groupes privés créés par des producteurs indépendants. Dans ces hôtels où les étrangers sirotent des cocktails parmi l'intelligentsia locale ayant pu se payer le billet d'entrée, ces groupes comme Charero déroulent les musiques occidentales alors en vogue à travers le monde, la soul de James Brown et bientôt le funk. Ces groupes, qui se produisent également dans des bars moins sélects comme le Lido ou bien les clubs de plage, dans les fêtes privées ou les mariages, deviennent extrêmement populaires, forgeant chanson après chanson la bande-son de cet âge d'or musical. France Culture, Jukebox, ce soir 1970, les folles nuits de Mogadiscio. Chanteuse Fadumo Kassim, accompagnée par le groupe Charero pour ce Waka Ella, autrement dit, Je t'aime bien, 1972.
Ils sont 2 millions. Leur religion, c'est l'islam. Le président de la République de Somalie doit être obligatoirement musulman. Il ne peut épouser une femme qui ne soit pas née dans le pays. Nomades ou semi-nomades, ils se disent volontiers les nobles de la savane, par opposition aux Éthiopiens qui, eux, seraient les nobles des hauts plateaux. Ce qu'ils veulent, et cela est formellement inscrit dans leur constitution, c'est la réunification de tous les territoires habités par les Somalis la Grande Somalie, qui fut jadis un grand royaume avant d'être une petite république. La vie apparemment n'a pas changé depuis des siècles et des siècles. Seul, le prix des femmes a sensiblement augmenté depuis l'indépendance, 50 chamelles ou 3 fusils.
Dans cette Somalie qui, depuis ce reportage de 5 colonnes à la une, diffusé en 1969, n'a cessé de s'urbaniser, les femmes pourtant gagnent sur scène un nouveau prestige. Souvent plus prolifiques que leurs homologues masculins, ces femmes sont louées pour leur voix dont la douceur est comparée à celle des dattes. Exemple avec la chanteuse Fadumo Kassim, qu'on entendait à l'instant jouer avec Charero. Originaire de Mogadiscio, elle sort en 1974 une cassette audio sur laquelle on trouve des chansons d'amour, mais aussi des titres patriotiques et engagés. Quelques années plus tard, elle y ajoutera d'autres titres plus critiques envers le régime, comme ce d'Alkigo, qu'on peut traduire par « Oh, ma terre », dans laquelle elle dénonce l'exil qui frappera bientôt de nombreux artistes. Quand les clans et les factions s'affrontent, quand les parents, les amis et les voisins se poignardent dans le dos, que les enfants sont envoyés au front. Je n'avais pas le choix à part franchir les frontières pour trouver un refuge et sauver ma peau. Ô ma terre, aucun paradis ne peut te remplacer dans mon âme. La chanteuse Fadumo Kassim et la douleur de l'exil de ce d'Alkigo, sans doute enregistré dans les années 1980. Car car si les premières années du règne de Siad Barré sont marquées par des succès économiques, comme la nationalisation des banques, des entreprises pétrolières ou des compagnies d'assurance, bientôt une face plus sombre du régime se fait jour à travers la mise en avant permanente du leader, culte de la personnalité qui se double d'un musellement progressif de l'opposition. L'avenir s'assombrit. En 74-75, une terrible sécheresse s'abat, les récoltes sont mauvaises. Surtout, deux ans plus tard, en juillet 77, le régime de Siad Barré se lance dans une folie militaire, entreprenant de récupérer, aux dépens du voisin éthiopien, le vaste territoire frontalier de l'Ogaden, habité majoritairement par des Somalis. Le début de la campagne est triomphal, 90% de l'Ogaden est occupé, mais tandis que les troupes somaliennes font le siège d'Harare, la géopolitique mondiale s'invite dans la partie. L'Union soviétique, jusqu'alors un soutien du régime de Mogadiscio, arbitre en faveur de l'Éthiopie, envoyant pour soutenir celle-ci 20 000 soldats cubains et des milliers de conseillers militaires soviétiques. La guerre se poursuit encore quelques semaines. Archives TF1, février 1978.
Depuis quelques jours, les choses se sont accélérées ici en Somalie. Depuis dimanche exactement, lorsqu'a été connue la décision du bureau politique du gouvernement d'entrer officiellement dans la guerre contre l'Éthiopie, après avoir considéré que puisque Cuba et l'Union soviétique, c'est-à-dire depuis que des puissances étrangères sont dans le conflit, il était nécessaire d'appuyer plus franchement les fronts de libération. Les choses se sont accélérées d'abord avec dimanche après-midi un immense meeting organisé dans le plus grand jardin public de Mogadiscio. Presque 50 000 personnes pour une ville qui ne compte que 200 000 habitants, 50 000 personnes massées pour écouter un discours du président Siad Barré. Le président Siad Barré a insisté dans son discours sur le fait que le socialisme dans son esprit n'était pas l'impérialisme et que l'Union soviétique, quels que soient ses idéaux officiels, se conduisait comme une puissance coloniale.
Siad Barré rompt alors les relations diplomatiques avec Moscou, se tournant vers l'Ouest et les États-Unis qui deviendront jusqu'en 1989 un soutien de poids du régime, versant chaque année à la Somalie environ 100 millions de dollars d'aide économique ou militaire. À cette époque, le régime militaire somalien semble saisi d'une paranoïa aiguë. Dès 1970, avaient été institués des tribunaux spéciaux, des procureurs militaires opérant en dehors du système civil, chargés de repérer les activités anti-révolutionnaires. Mais en 1979, les choses s'aggravent. Une vague de purges touche l'armée, dont certains militaires, suspectés d'avoir fomenté un coup d'État, sont sommairement exécutés. D'autres officiers parviennent à fuir à l'étranger, où ils créeront des mouvements d'opposition. 79, la Somalie s'enfonce dans les dérives mafieuses, les détournements divers, les alliances contre nature entre des clans autrefois rivaux, l'affaiblissement des instances traditionnelles, malmenées par les privilèges accordés aux proches du pouvoir. Pendant ce temps, dans les discothèques de Mogadiscio, de nouveaux groupes apparaissent, comme les locaux du Dur Dur Band, le printemps en langue somalie, formé vers 1981 par une pléthore de musiciens tout juste sortis du lycée, influencés par les nouveaux rythmes occidentaux, la soul, le funk et bientôt le disco. C'est l'époque où, lors des concerts donnés à l'hôtel Al Uruba ou dans les autres boîtes de nuit de Mogadiscio, Dur Dur Band ou Iftin multiplient les reprises en langue locale de Stevie Wonder ou de Michael Jackson, déroulant également leurs propres compositions, comme ce Tajir wa Hilla, Tajir est Dieu.
Yeah.
Tajir Wahilla, Tajir et Dieu, extrait de la cinquième cassette du groupe Dur Dur Band, publié en 1987. Cette seconde moitié des années 80, l'insécurité ne cesse d'augmenter. Les conflits accélèrent l'exode rural, tandis que le chômage explose, notamment chez les jeunes. Sur le plan économique, la FMI obtient une très forte dévaluation du shilling somalien. En 84, Siad Barré révise certes la constitution afin d'introduire l'élection du président au suffrage universel. Sur le plan diplomatique, il pacifie le litige territorial avec le Kenya. Pourtant, sa cote de popularité dégringole. Il fait dès lors régner la terreur dans certains clans, s'appuyant pour ce faire sur les bérets rouges, une unité spéciale et sanguinaire qui multiplie tortures et arrestations arbitraires. Le clientélisme devient la norme et nourrit le sentiment d'injustice. Les musiciens, eux, doivent faire avec une censure de plus en plus présente, censure qu'ils parviennent toutefois à tromper en jouant sur la langue ou bien en se réfugiant dans des chansons sentimentales comme ce « Hab ici, prends-moi dans tes bras » interprété en 1986 par le chanteur Omar Chouli. We'll be right back. Serre-moi dans tes bras, tiens-moi contre ta poitrine, ce Ab ici, interprété en 1986 par le chanteur Omar Chouli sur un rythme syncopé qui rappelle celui du reggae, mais qui provient en réalité du danto somalien, musique jouée à l'époque près de la frontière éthiopienne. En 88, l'instabilité générale est aggravée lorsqu'un mouvement séparatiste originaire du Nord et soutenu par l'Éthiopie, le Somali National Movement, prend les armes contre Siad Barré. En retour, le gouvernement lance ses bombes sur Hargeisa, la grande ville du Nord-Ouest qui est quasiment rasée. Des milliers d'habitants périssent, le célèbre théâtre national est réduit en cendres, les maisons des artistes sont détruites, pillées, leurs instruments volés, puis revendus. Entre 88 et 90, ce conflit fera 60 000 morts. Nombre d'artistes et de civils prennent alors le chemin de l'exil.
Shake, 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 shake up your head. Shake, shake, shake,
Exhumé par le label Analog Africa, le chanteur Mukhtar Idi pour ce Check Up Your Head, enregistré à Mogadiscio en 1988. En 1991, les forces d'opposition prennent finalement le dessus sur le gouvernement. Le 24 janvier, des combats ont lieu à Mogadiscio. Le 27, le palais présidentiel tombe et Siad Barré parvient à fuir, caché dans un char. Il mourra 4 ans plus tard en exil à Lagos. Entre-temps, le Somaliland, l'ancienne colonie britannique du Nord, en profite pour faire sécession et autoproclamer son indépendance. La guerre civile déchire les clans, l'ONU tente de pacifier les choses, mais les années passent et en 2004, les milices islamistes, les redoutables Chebab, conquièrent en quelques mois une grande partie de la Somalie, s'emparant en 2006 de Mogadiscio. Les morts s'accumulent, 500 000 estime l'ONU jusqu'en 2015. La culture somalienne, elle, allait traverser le désert par manque d'infrastructures, d'instruments et les pressions des groupes religieux islamistes. Il faudra plus de 30 ans pour que, au milieu des années 2010, des chercheurs occidentaux de musique remettent la main sur les enregistrements de cet âge d'or sous l'influence notable de deux labels dont nous avons largement diffusé les enregistrements ce soir, Ostinato Records et Analog Africa.
Yeah. Come.
Sometimes I'm global. I'm from the most risky zone. All no places more shifty global. More pistols, Russian revolvers. We shooting all that is normal. But it ain't just because we want to. We ain't got nowhere we can run to. Somebody please press the undo. They only teach us the things the guns do.
They don't teach us the ABCs. We play on the hard concrete. All we got is life for the streets. All we got is life for the streets. They don't teach us the ABCs.
Grown and sexy, come with the extra. Crushed up linen, fly like Cessna. This type grew, I gave it birth. Now it's time again to give it a verse. Jamaican born, not a fan of the ganja. Clear vibe, Brooklyn to Somalia. Man, hear them goes in the background. Player, that is my sound. The green doesn't symbolize I made it on the top. Pioneer legend and they call me Mr. Rock. No B word or N word, I don't need those words. Respect for hers, the game dried up. So we coming to Greece, leading you right and treating you right. So peace.
Ainsi se referme ce numéro de Jukebox, ce soir 1970-1980, ce temps où Mogadiscio chantait, une émission diffusée pour la première fois le 16 novembre 2019. Merci à Sami Ben Redjeb du label Analog Africa qui a fait paraître en décembre dernier la compilation Dancing Mogadiscio. À consulter également Sweet as Broken Dates, une compilation du label américain Ostinato Records. Merci pour ses conseils à Colin Housset, dont l'anthologie Musique du monde arabe vient de paraître cet été 2020 aux éditions Le Mot et le Reste. Jukebox se réécoute et se télécharge en ligne. Une émission préparée par Antoine Villose de la discothèque, Anthony Richard de la bibliothèque. À la technique, c'était Guillaume Ledu et Alexandre Dang. Agnès Catou à la réalisation, au micro et au stylo Amaury Chardot. À samedi prochain, 19h, pour une nouvelle rediffusion estivale, nous reviendrons sur la carrière prolifique de l'américain Quincy Jones.